Des milliers de Parisiens en un immense cortège ont accompagné cet après-midi à Paris la dépouille de Jean-Paul Sartre jusqu'à sa sépulture. Un cortège qui a mis plus de 2 heures pour aller de l'hôpital Brousset au cimetière Montparnasse.
Il y a exactement 40 ans, le 15 avril 1980, Jean-Paul Sartre décédait et ses obsèques se tenaient le 19 avril 1980. L'extrait sonore que nous venons d'écouter concernant ses obsèques nous vient des archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Cette émission est donc consacrée à Jean-Paul Sartre. Sur notre site micro-rebelle.fr, vous pouvez compléter cette étude en téléchargeant ou en podcastant d'autres extraits des archives de l'INA ou d'une émission de radio enregistrée par Radio-Canada dans lesquelles Jean-Paul Sartre s'exprime sur « Qu'est-ce qu'un intellectuel ?», sur la guerre du Vietnam, sur le tribunal Russell, présidé par Jean-Paul Sartre, pour juger la politique américaine au Vietnam, sur le refus de Jean-Paul Sartre du prix Nobel de littérature, et enfin sur l'Algérie, la torture, le racisme. N'hésitez pas à écouter Jean-Paul Sartre dans ses différents extraits. Le simple énoncé des interventions de Jean-Paul Sartre, tel que je viens de l'évoquer, suffit à indiquer à quel point était importante pour Sartre la question de l'engagement. Pour Sartre, un intellectuel est engagé, il est en situation. Et il faut malheureusement reconnaître que, après la mort de Sartre, cet aspect de l'engagement des intellectuels a complètement disparu. Avec quelques rares exceptions, on peut par exemple se référer à Pierre Bourdieu, mais dans les faits, aujourd'hui, ce type d'intellectuel n'existe plus. En 2020, 40 ans après la mort de Sartre, les intellectuels se veulent avant tout les idoles des médias et les courtisans du pouvoir, un pouvoir qu'ils tiennent à défendre, de même que chacune de leurs interventions justifie la société telle qu'elle est, avec ses inégalités et ses oppressions. Bref, Sartre est bien mort. Il n'est pourtant pas dit que ses écrits, ses prises de position, ses postures ne continuent pas à nous inspirer et à nous mobiliser. En témoigne la volonté de changement qui secoue régulièrement la société française, envers et contre les intellectuels médiatiques et les éditocrates de 2020. L'engagement de Sartre, on le voit, tout d'abord dans son « métier » entre guillemets d'écrivain. On va écouter deux passages de ce qu'écrivait Sartre à ce sujet en 1947. Le premier extrait concerne la prose et le prosateur.
« La prose est utilitaire par essence. Je définirais volontiers le prosateur comme un homme qui se sert des mots. Monsieur Jourdain faisait de la prose pour demander ses pantoufles et Hitler pour déclarer la guerre à la Pologne. » On est en droit de demander d'abord au prosateur « À quelle fin écris-tu ? Dans quelle entreprise es-tu lancé ? Et pourquoi nécessite-t-elle de recourir à l'écriture ? Et cette entreprise, en aucun cas, ne saurait avoir pour fin la pure contemplation. »
Un deuxième extrait maintenant concernant l'écrivain engagé.
« L'écrivain engagé sait que la parole est action. Il sait que dévoiler, c'est changer, et qu'on ne peut dévoiler qu'en projetant de changer. » Il a abandonné le rêve impossible de faire une peinture impartiale de la société et de la condition humaine. Il sait qu'il est l'homme qui nomme ce qui n'a pas encore été nommé ou ce qui n'ose dire son nom. Il sait qu'il fait surgir le mot d'amour et le mot de haine, et avec eux l'amour et la haine entre des hommes qui n'avaient pas encore décidé de leurs sentiments. Il sait que les mots, comme dit Brice Parrain, sont des pistolets chargés. S'il parle, il tire. Il peut se taire, mais puisqu'il a choisi de tirer, il faut que ce soit comme un homme, en visant des cibles et non comme un enfant au hasard, en fermant les yeux et pour le seul plaisir d'entendre les détonations. La fonction de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne s'en puisse dire innocent.
Jean-Paul Sartre a écrit deux romans, « La nausée » en 1938 et Les chemins de la liberté en 3 tomes. Et il a écrit de nombreuses pièces de théâtre. Toujours, Sartre reste, selon ses propres termes, un écrivain qui résiste plutôt qu'un résistant qui écrit comme il aurait voulu être. La résonance politique de son œuvre est indéniable. On a du mal à choisir un exemple de peur d'être trop restrictif. Évoquons par exemple La putain respectueuse, une pièce sortie en 1946 avec en toile de fond le racisme aux États-Unis. Cela peut paraître lointain, mais rappelons-nous à quel point les États-Unis étaient racistes et ségrégationnistes envers les Noirs. Voici ce que disait Sartre à propos de la putain respectueuse.
Quand j'ai fait représenter cette pièce, on a dit que j'avais montré bien peu de reconnaissance envers l'hospitalité américaine. On a dit que j'étais anti-américain. Je ne le suis pas. Je ne sais même pas ce que ce mot signifie. Je suis anti-raciste car je sais ce que le racisme, lui, signifie. Mes amis américains, tous ceux que j'ai aimés parmi ceux qui m'ont reçu, sont également antiracistes. Je suis sûre que je n'ai rien écrit qui leur déplaise ou qui me révèle comme ingrat envers eux. On a dit que j'avais vu la paille dans l'œil du voisin et non la poutre dans le mien. Il est vrai que nous autres Français avons des colonies et que notre comportement y laisse à désirer. Mais quand il s'agit d'oppression, il n'y a plus ni paille ni poutre. Il faut la dénoncer partout où elle existe. L'écrivain ne peut pas accomplir grand-chose dans le monde. Il peut seulement dire ce qu'il a vu. J'ai attaqué l'antisémitisme. Aujourd'hui, dans cette pièce, j'attaque le racisme. Demain, je consacrerai un numéro de ma revue à attaquer le colonialisme. Je ne crois pas que mes écrits ont beaucoup d'importance ou qu'ils changeront quoi que ce soit, ou même qu'ils me feront beaucoup d'amis. Tant pis. Je fais mon travail d'écrivain. Dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel temps et dans n'importe quel lieu, l'homme est libre de se choisir traître ou héros, lâche ou vainqueur. En choisissant pour lui-même l'esclavage ou la liberté, il choisira du même coup un monde où l'homme est libre ou esclave. Et le drame naîtra de ses efforts pour justifier ce choix. En face des dieux, en face de la mort ou des tyrans, une même certitude, triomphante ou angoissée, nous reste, celle de notre liberté.
Au-delà de l'écrivain engagé, Sartre pose la question de l'engagement de l'intellectuel dans les luttes qui se mènent à son époque. Il est longtemps compagnon de route du Parti communiste français, avec lequel il rompra en 1968 après l'intervention des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie. Il décide ensuite d'assurer la direction du journal maoïste La Cause du Peuple et, en 1973, annonce la création du journal Libération. Il préside le tribunal Russell pour juger les crimes de guerre perpétrés au Vietnam. Il s'engage contre la guerre et la torture en Algérie. En 1964, il obtient le prix Nobel de littérature, prix qu'il refuse car ce prix récompense les écrivains bourgeois auxquels il refuse de s'identifier. Il vous est possible d'écouter sur micro-rebelle.fr plusieurs interventions de Sartre concernant ses différents engagements. Une autre image fameuse est restée. Le 21 octobre 1970, Sartre est debout sur un tonneau devant les ouvriers de l'usine Renault de Boulogne-Billancourt. On l'écoute.
Je veux témoigner dans la rue parce que je suis un intellectuel et que je pense que la liaison du peuple et des intellectuels qui existait au 19e siècle, pas toujours, mais qui a donné de très bons résultats, devrait être retrouvée aujourd'hui. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple, mais au contraire, pour que ces masses prennent une forme neuve. Et c'est pourquoi je vous dis, nous nous retrouverons certainement.
Une nouvelle lecture maintenant, extraite de « On a raison de se révolter ». On est en 1973. Sartre évoque la lutte des ouvrières et ouvriers des usines LIP, et notamment tout ce que cette lutte recouvre en matière d'autogestion.
C'est à la fois le sens profond de LIP et l'unité qui est dans la Nouvelle Gauche, l'idée de la suppression de la hiérarchie, de l'égalité absolue des travaux, des hommes travailleurs. C'est l'idée qui me paraît essentielle chez LIP et c'est l'idée que les trotskistes et les Mao défendaient contre Ordre Nouveau. Je pense qu'il y a eu effectivement à gauche une discussion sur l'autogestion, surtout lorsqu'on l'a faite en Yougoslavie. Donc, ils sont au courant de la chose. Mais par contre, pour les ouvriers de LIP, ce n'est pas du tout cela. C'est vraiment dans le concret qu'ils voient l'absurdité d'une hiérarchie et de salaires différents. Ils voient l'égalité des hommes qui travaillent et cela, c'est concret. Avant la grève, quand ils voient passer un cadre sur leur lieu de travail, ils trouvent ça cocasse. Mais après la grève, après la reprise de l'usine, c'est l'ensemble des rapports entre cadres et ouvriers, cadres et patrons, qui leur apparaît abstrait et absurde. Ils ne voient pas que cela corresponde à quelque chose. Ils voient un système, très loin de l'humain, qui donne à des gens des supériorités sur d'autres sans que cela soit fondé sur une supériorité mentale ou physique. Il y a donc réellement, chez Lippe, un souhait de réaliser cette égalité. Et puis, il y a eu des expériences comme celle de Yougoslavie, ou c'est plutôt le gâchis, qui sont quand même venues jusqu'ici et ont fait l'objet de discussions. Ce qui fait que l'idée chez Lippe n'est pas complètement originale, encore qu'à mon idée, elle ne vienne pas de Yougoslavie ou des discussions qui ont eu lieu en France à ce sujet. Les Lippe ont trouvé cela eux-mêmes. Cela me paraît assez typique, mais cela rappelle aux vieux de vieilles idées sur l'autogestion. C'est cela qui mettra le patronat en folie. Lorsqu'il s'apercevra que cela peut se faire partout et qu'alors le patronat devient inutile et même nuisible. Alors, il attaquera. Et ce sera une lutte très violente en perspective. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous en sommes à une première tentative qui va échouer parce que l'usine sera rachetée et parce qu'il y aura des forces de droite qui seront contre. Si tu veux, je trouve que Lippe est un fait très particulier, très important, auquel d'ailleurs les journaux ont donné beaucoup de place et qui restera dans la mémoire ouvrière.
Deux lectures pour clôturer cette émission. On est toujours en 1973-1974, soit quelques années à peine après mai 68. C'est évidemment une période qui peut nous paraître très lointaine. Depuis, la crise du capitalisme s'est aggravée, le néolibéralisme déferle avec ses cures d'austérité, ses services publics bradés et ses appels au renoncement sous l'angle « il n'y a pas d'alternative ». Le premier extrait concerne l'intellectuel politique en 1973-1974 selon Sartre.
L'intellectuel politique que nous envisageons pourra être n'importe quel ouvrier. Il saisira mieux les principes à partir desquels il pense que telle idée est juste, que telle action est valable, et en se référant à ces principes, il sera un intellectuel. Tandis qu'aujourd'hui, l'intellectuel n'a souvent que mépris pour l'homme politique, et l'homme politique considère les intellectuels comme négligeables. C'est là que nous en sommes aujourd'hui, avec cette particularité que l'homme militant révolutionnaire naît de la synthèse du politique et de l'intellectuel. Il y a des ouvriers qui disent « Moi, je ne parle pas, je ne sais pas parler, je dis ce que je pense, c'est tout. » Et qui sont, très souvent, les hommes les plus intellectuels de leur groupe, par la manière dont ils discutent, dont ils présentent leurs hypothèses, etc. Il faut bien voir que la scission du politique et de l'intellectuel est provoquée par une société en divorce avec elle-même. Cette scission disparaîtra même s'il reste une distance entre la théorie et la pratique. Peu à peu, on arrivera à ce que l'intellectuel ce soit tout le monde. Les hommes qui agiront seront des hommes politiques et comprendront pourquoi ils agissent comme ils font. Ils seront donc des intellectuels. Leur manière de se conduire ne sera plus en contradiction avec leur manière d'être. Il y a une différence entre la manière d'être, c'est-à-dire d'être ce qu'on est, et puis se conduire, c'est-à-dire de se faire autre qu'on est pour obtenir un but. Il faut que les deux s'accordent.
Et puis notre dernier extrait. Sartre s'exprime à propos de l'homme révolutionnaire. Ça peut paraître lointain, surtout chez celles et ceux qui sont passés du col Mao au Rotary, mais il n'est pas dit que ça ait perdu toute pertinence et toute actualité.
L'homme révolutionnaire, nous en avons à peu près défini certaines priorités. La première priorité me paraissant être le rejet de plus en plus radical de toute contrainte imposée à l'individu par une classe qui n'est pas la sienne. La classe bourgeoise assujettit la classe ouvrière à certaines normes et à un certain nombre et à un certain mode d'action. Elle ne se soucie pas de la dégradation humaine qui en est la conséquence. Cette dégradation est une des causes essentielles de la révolution. La classe opprimée se rend compte, dès qu'elle ouvre les yeux, le matin, de l'oppression qui lui vient d'ailleurs, oppression qu'elle veut détruire. La situation actuelle est une situation révolutionnaire, en ce sens que jamais dans l'histoire bourgeoise, et qu'en période de non-action violente, le travail n'a été plus contesté. Occupation d'usines, PDG emprisonnés par les ouvriers qui occupent l'usine, grève violente, des réalisations comme Lippe, organisation faite par les ouvriers eux-mêmes, luttes ouvrières qui secouent la bourgeoisie. Bref, nous sommes dans une période qui ne ressemble à aucune autre.
Avant de conclure, un mot quand même concernant Sartre et le bassin minier du Pas-de-Calais. Le 4 février 1970, la fosse 6 de Fouquier-lès-Lens est le théâtre d'une catastrophe minière meurtrière. 16 morts, 12 blessés, 40 orphelins. Alors que les houillères parlent de fatalité, la CGT mineure accuse les conditions de sécurité jugées défaillantes et les Mao de la gauche prolétarienne préparent un tribunal populaire autour d'une question. 16 mineurs sont morts, qui sont les coupables ? Ce tribunal se tient le samedi 12 décembre 1970 à la salle Richard à Lens et c'est Jean-Paul Sartre qui prononce le réquisitoire avec ces mots. L'État patron est coupable. La direction et les ingénieurs responsables de la fosse 6 sont ses exécuteurs. C'est intentionnellement qu'ils choisissent le rendement plutôt que la sécurité, c'est-à-dire qu'ils mettent la production des choses avant les vies humaines. Fin de citation. Nous terminons donc cette émission à l'occasion des 40 ans de la mort de Sartre, par cette évocation de sa participation au tribunal populaire de Lens en 1970. Je vous rappelle que vous pouvez compléter cette écoute en vous rendant sur notre site micro-rebelle.fr et télécharger ou podcaster des extraits d'archives de l'INA ou d'une émission de Radio-Canada dans lesquelles Sartre s'exprime sur qu'est-ce que l'intellectuel, sur la guerre du Vietnam, sur le tribunal Russell, sur le refus du Nobel de littérature et sur l'Algérie.
Dès midi, la foule a commencé à se rassembler devant l'hôpital Brousset où le philosophe s'est éteint mardi dernier. À 14h, pour la levée du corps, ils étaient déjà à près d'un millier dans l'étroite rue d'Ido. Des jeunes, beaucoup de jeunes, mais aussi des hommes et des femmes de toutes conditions, anonymes ou personnalités, comme vous venez de le voir, personnalités du monde artistique, politique ou encore littéraire. Tous, en tout cas, sont venus à titre individuel. Jean-Paul Sartre avait toujours souhaité qu'il n'y ait aucune délégation, aucun représentant officiel à ses obsèques. Sa volonté a été respectée. À peine a-t-on pu remarquer quelques inscriptions sur les gerbes accrochées sur le fourgon, celles des journaux de Libération et de la revue Les Temps modernes que Sartre avait animée et dirigée. Et aussi une gerbe de l'île de Lumière, le bateau pour le Vietnam. Jean-Paul Sartre, en effet, avait participé activement à cette campagne qui avait permis de sauver plusieurs centaines de réfugiés.
Sartre, l'anticonformiste, lui qui refusait les hommages, les distinctions, Sartre qui avait refusé le Nobel en 1964, Sartre qui ne voulait pas d'obsèques nationales, n'aura pas eu de toute façon un enterrement comme les autres. La spontanéité, la simplicité d'une foule silencieuse aura tout de même donné à cette cérémonie une grandeur chaleureuse, un hommage sans faste, mais tout empreint de dignité. Celui qui toute sa vie s'est battu pour la dignité de l'homme, pour la liberté, ce philosophe qui aura été de tous les combats, ce chercheur et inventeur des libertés, cet homme parmi les hommes aurait sans doute aimé être ainsi, entouré par une foule anonyme, car c'est à cette foule qu'il appartient.
Sur les 3 kilomètres du parcours, cette foule n'a cessé de grossir, toujours aussi digne et silencieuse. Spontanément, des jeunes gens ont fait une sorte de service d'ordre autour du fourgon mortuaire pour canaliser le flot des Parisiens. 15 000, 20 000, 25 000, on ne sait pas très bien.